Chapitre 2. Paris avait calomnié son roi par une horrible imputation. Louis XV prit en dégoût sa capitale. La ville autrefois des plaisirs et des fêtes, devenue la ville des insultes et des menaces. Depuis longtemps, le peuple lui avait retiré ce beau titre de Louis le bien-aimé. Quelques années plus tard, il disait avec justice: le bien-aimé de l'almanach n'est plus le bien-aimé de France. Le roi prit donc la résolution de ne plus traverser Paris pour aller de Versailles à Compiègne. Il voulait, dit-il, punir son peuple. Le fait est qu'il en était réduit à le craindre. On fit par ses ordres un chemin de la porte du bois de Boulogne à Saint-Denis en tournant la capitale. Cette nouvelle voie prit le nom de route de la révolte qu'elle a gardée depuis. À l'occasion de cette émeute, le guet reçut une organisation militaire. On fit bâtir des casernes à Rueil et à Courbevoie afin d'avoir toujours des troupes sous la main. Enfin, le maréchal de Lovendal fut chargé de dresser un plan de fortification contre Paris. Cependant, le Parlement continuait ses remontrances et la querelle des billets de confession menaçait l'Église d'un schisme. Malgré le mépris des Français pour Louis XV, n'avait pas détruit encore dans leur cœur l'attachement au sang de leur roi. Toute l'affection du peuple s'était reportée sur le dauphin, dont la vie sérieuse et calme formait un contraste éloquent avec les goûts de son père. D'ailleurs, c'est surtout à la favorite que le peuple s'en prenait. On la disait la cause de tout le mal. Mieux que nous ne pourrions faire, une simple chanson du temps expliquera la situation des esprits. Elle est bien l'expression des sentiments de l'époque. Les grands seigneurs s'avilissent, les financiers s'enrichissent. Tous les poissons s'agrandissent, c'est le règne des vauriens. On épuise la finance en bâtiment en dépense, l'État tombe en décadence, le roi ne met ordre à rien, 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 rien. Cette chanson, qui d'original a 9 ou 10 couplets, était destinée à faire fortune. Assez de fautes graves, assez d'accusations méritées pèsent sur la mémoire de la marquise de Pompadour, sans qu'il soit nécessaire de la calomnier encore. Il est donc juste de la décharger d'une imputation odieuse et ridicule, fort accréditée par quelques romans historiques et un gros mélodrame, qu'il accuse d'avoir, 30 ans durant, persécuté un malheureux prisonnier, plus impudent et imprudent que coupable. On devine qu'il s'agit de latude ou 30 ans de captivité. Rétablissons donc les faits. Le 15 mai 1750, Madame de Pompadour était à sa toilette lorsqu'on lui remit une lettre apportée par la poste. On y dénonçait un complot contre ses jours et on donnait la liste des principaux conjurés. Le nom des plus grands personnages de la cour y figurait. Cette lettre l'avertissait qu'avant peu, elle recevrait une cassette renfermant des poisons si violents que les respirer seraient mortels. La lettre était signée Henri Mazère de Latude. La marquise, on le comprend, fut épouvantée et fit aussitôt prévenir le lieutenant de police, un homme qui lui était tout dévoué. La cassette annoncée ne tarda pas à arriver. On l'ouvrit avec les plus grandes précautions. Elle renfermait quelques paquets de poudre blanche, poudre complètement inoffensive. L'innocence de tous les personnages dénoncés résultant d'une information des plus sérieuses, on résolut de découvrir le mystificateur, et c'est bien le nom qui convient. Latude avait pris si peu de précautions que les paquets de poudre blanche de la cassette étaient renfermés dans des papiers écrits de sa main. Or, du premier coup d'œil, on s'était convaincu que l'auteur de la lettre et celui qui avait envoyé la cassette ne faisaient qu'un seul et même personnage. L'étude ne se cachait pas. Il fut arrêté comme calomniateur. Interrogé par le lieutenant de police, il répondit que, se trouvant sans ressources et sans protecteur, il avait trouvé ce moyen dans l'espoir que Madame de Pompadour, se croyant sauvée par lui d'un grand danger, lui accorderait sa protection. Le lieutenant de police se contenta alors de le faire enfermer au fort de Vincennes. Mazère de la Tulle était un petit gentilhomme gascon né à Montagnac dans le Languedoc. Il avait fait en Hollande, près des réfugiés protestants, de remarquables études et se destinait au génie militaire. C'est donc comme officier qu'il fut conduit à Vincennes. Latude s'évada le second mois, mais il ne fut pas poursuivi. Il eût été oublié sans doute s'il ne s'était avisé d'une nouvelle plaisanterie dans le goût de la première. Il avait la monomanie de la dénonciation. Arrêté dans l'hôtel garni qu'il occupait, il fut cette fois conduit à la Bastille. Le traita convenablement, il avait un logement d'officier. Là, il se lia avec un nommé Allègre, gascon comme lui, et 6 mois après, tous les deux s'évadaient avec une incontestable hardiesse. Ils se sauvèrent en Hollande, où Latude s'affilia aux conjurations des protestants et des jansénistes réfugiés. Il fut enlevé et réintégré à la Bastille. Naturellement, on dut prendre à son égard certaines précautions de surveillance, mais il fut néanmoins bien traité. On lui accordait la permission d'écrire. Les plans et les projets de génie militaire qu'il adressait au ministre en font foi. Homme supérieur, esprit d'élite, Latude avait des idées jeunes et fécondes. Le ministre lui fit ouvrir la liberté à la condition de retourner à Montagnac. Sort refusé précisément, il prit occasion d'écrire à Madame de Pompadour des lettres d'une extrême insolence. Or, ces lettres, qui devaient passer par les mains du lieutenant de police, n'arrivèrent pas à leur adresse. En novembre 1765, Latude s'échappait de nouveau par un miracle inouï d'audace et de présence d'esprit. Repris, il fut renfermé à la Bicêtre et on ne relâcha qu'en 1777, sous la condition expresse qu'il habiterait son lieu de naissance. Bien où voit-on dans tout cela une vengeance personnelle de Madame de Pompadour? Si cela était, n'eût-il pas recouvré sa liberté à la mort de la favorite? Monsieur de Sartine, ennemi de la marquise, eût-il fait poursuivre en 1765 le prisonnier évadé? Le duc de Choiseul l'aurait-il fait enfermer à Bicêtre? Monsieur de Malesherbes, visitant cet hôpital en 1775, n'eût-il pas fait droit à ses réclamations? Louis XV, cependant, s'ennuyait toujours, et la marquise, malgré toute son imagination, se voyait à bout de moyens de distraction. C'est alors que l'idée lui vint d'inspirer au roi le goût des bâtiments et des constructions. On mit des ouvriers partout à la fois. Le public cria fort, c'était la moindre des préoccupations de la favorite. Les finances se trouvaient dans le plus déplorable état, mais telle était l'indifférence du roi et la toute-puissance de la marquise, que l'on put faire un incroyable abus des acquis de comptant. C'était tout simplement conduire l'état à la banqueroute. Quelques entreprises utiles furent cependant conseillées par Madame de Pompadour, et l'on commença les bâtiments de l'école militaire et de la manufacture des porcelaines de Sèvres. L'établissement de la manufacture de porcelaines de Sèvres rendit le plus grand service à l'industrie française. Nous avions les gobelins, la savonnerie, les glaces qui, par la supériorité de leurs produits, nous donnaient la première place, mais l'art céramique était resté en retard. Bien plus, il avait dégénéré, et depuis longtemps, le secret était perdu de ces magnifiques poteries des XVe et XVIe siècles, si recherchées encore aujourd'hui des amateurs. Nos porcelainiers se bordaient alors à l'imitation mal réussie, à la contrefaçon grotesque des produits de la Saxe ou du Japon. Sous les auspices de Madame de Pompadour, cet art charmant fit les plus rapides progrès. On retrouva des couleurs et des nuances perdues. On eut le secret de la pâte tendre, si fine et si belle, et bientôt les produits de la manufacture de Sèvres firent l'admiration du monde entier. Les constructions de l'école militaire de la manufacture de Sèvres ne faisaient pas négliger d'autres entreprises beaucoup moins utiles mais plus coûteuses. On travaillait à force à Choisy, à Crécy, à la Muette et surtout au château de Bellevue, dispendieuse fantaisie de la favorite. Madame de Pompadour, allant un jour de Sèvres à Meudon, s'arrêta sur la colline qui domine la rive gauche de la Seine, au point où la route de Versailles traversait cette rivière. « Voyez donc, sire, » dit-elle en s'adressant au roi, « voyez donc la belle vue !» Et sur cette hauteur abandonnée aux bruyères, elle résolut de se faire construire un château. Artistes, architectes, peintres, sculpteurs, jardiniers furent aussitôt convoqués, les plans furent arrêtés séance tenante et les travaux commencèrent avec une magique rapidité. La marquise elle-même surveillait l'œuvre des architectes et souvent le roi quittait la chasse pour venir déjeuner au milieu des ouvriers. Moins de 2 ans après, le château de Bellevue était achevé. Les petits bâtiments, situés au bas de la rampe, presque au bord de la Seine, prirent le nom de Brimborion. Bellevue, inaugurée le 25 novembre 1760 par des fêtes magnifiques, devint bientôt la résidence favorite de Louis XV. Il est vrai que la marquise avait prodigué les millions pour faire de ce château un véritable séjour des mille et une nuits. Le jour de l'inauguration, la marquise, après avoir promené son royal amant dans toutes les pièces de ce merveilleux château, après avoir joui de ses surprises et de son admiration, le conduisit dans un appartement qui s'ouvrait sur une serre immense éclairée de 1000 bougies. Là se trouvaient à profusion les fleurs les plus rares, les plus éloignées de la saison. Roses, lilas, jasmins, œillets, renoncules et primevères s'épanouissaient dans ce domaine enchanté de flore, comme on disait alors, et répandait les plus suaves parfums. Le roi fut ébloui. « Ne me donnerez-vous pas un bouquet, marquise ? » demanda-t-il. « Mais venez-vous même le cueillir, sire ? » dit l'enchanteresse avec un ravissant sourire. « Venez !» Le roi y alla. Mais à la première fleur qu'il voulut détacher, il s'aperçut que la tige était froide et rigide. Tout ce charmant parterre était en fine porcelaine de Saxe et de suaves essences dont les gouttes brillaient sur les feuilles comme autant de perles de rosée remplaçaient les émanations de toutes ces fleurs. Toute la cour, est-il besoin de le dire, s'arracha bientôt les invitations de Bellevue. Mais le château était petit. Le nombre des invités fut très restreint. Il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les ministres, quelques favoris intimes, étaient les hôtes habituels. Ceux-là passaient la nuit au château. Les invités ordinaires se retiraient après les fêtes et allaient chercher un gîte dans les habitations des environs. On appelait ces convives de jour des polissons. Et cependant, aller à Bellevue, même en polisson, était une faveur insigne. Hommes et femmes devaient revêtir un uniforme choisi et dessiné par Madame de Pompadour. Elle-même avait distribué les étoffes et donné le calque des dessins que chacun devait faire exécuter. Les broderies seules étaient une affaire de plus de 1200 livres. Les habits des hommes étaient de velours, les robes des dames de damas. Les dépenses du château de Bellevue firent beaucoup crier. Pamphlets et chansons faisaient rage. Un officier aux gardes, chevalier de Malte, pour 4 mauvais vers, fut condamné à 1 an de détention, puis exilé. Et les flatteurs de la favorite trouvaient la punition bien douce. Toute puissante dans l'État, Madame de Pompadour n'avait pas à la cour les honneurs du tabouret. Elle n'eut qu'un mot à dire, tout fléchit devant ses volontés, même l'étiquette, qui n'accordait cette prérogative qu'aux seules duchesses. Le roi saisit, pour lui accorder cette faveur, l'occasion du rétablissement du dauphin qui avait été si sérieusement malade qu'un instant on avait cru pour ses jours. La favorite eut donc le tabouret. Vainement le parti du dauphin s'opposa à son élévation. Elle fut présentée. Suivant le cérémonial des présentations, elle devait être embrassée par la reine, par le dauphin et par les princesses. La reine et ses filles se soumirent à cette humiliation nouvelle que leur imposait le roi. Mais le dauphin ne put cacher son dégoût. Après avoir embrassé la nouvelle élue, il lui tira la langue, selon les uns, et essuya ses lèvres du revers de sa main, selon d'autres. La marquise ne s'en aperçut pas sur le moment, mais ses flatteurs ne tardèrent pas à le lui apprendre. Grande fut sa colère contre le dauphin qu'elle n'avait jamais aimé. Sa piété, selon elle, n'était qu'une hypocrisie. Sa charité, un moyen habile de se créer une popularité. Elle alla donc trouver le roi, se plaignant amèrement de cette insulte qui retombait sur lui. Louis XV partagea l'indignation de la favorite et le dauphin reçut l'ordre de se rendre au château de Meudon. Vainement, la reine et ses filles intercédèrent pour lui. Non, le roi mit pour condition à son retour qu'il ferait des excuses à la marquise. Après quelques résistances, le dauphin fut obligé de se soumettre. En présence de toute la cour, il déclara à Madame de Pompadour qu'il était très innocent de l'injure que des calomniateurs lui imputaient. La favorite reçut cette déclaration avec la dignité d'une reine, et gracieusement, elle lui répondit que jamais elle n'avait jeté foi à tout ce qu'on était venu lui rapporter. Puis, comme gage de réconciliation, elle grava elle-même le portrait du dauphin. Tel fut le dénouement de cette aventure qui faillit diviser le parti du dauphin. Les uns le blâmaient et les autres l'approuvaient d'avoir obéi au roi. Mais le dauphin fit observer que toute la honte, si haute il y avait, retombait non sur le fils qui se soumettait, mais sur le père qui avait donné des ordres. Le tabouret ne satisfit pas encore l'ambition de Madame de Pompadour. Elle voulut être dame d'honneur de la reine. Sûre de l'approbation du roi, elle fit faire quelques démarches près de Marie Leszczynska. La reine, toujours faible et soumise, n'osa refuser, mais elle objecta que, toutes les dames du palais faisant leur Pâques, la favorite ne pouvait être admise qu'à la condition d'approcher des sacrements. La marquise s'occupa immédiatement de lever cet obstacle. Elle commença par déclarer que ses relations avec le roi n'étaient plus qu'amicales, ce qui était vrai, comme nous le verrons plus tard. Elle sollicita ensuite de son mari une lettre de pardon dans laquelle il devait dire que désormais, oubliant toutes les fautes de sa femme, il lui rendait son estime et lui rouvrait sa maison. Monsieur d'Étiol consentit à tout ce que lui demanda sa femme. Depuis longtemps, il avait pris son parti de son abandon et il s'était même décidé à user de son pouvoir tant pour lui que pour ses amis. En 1754, il avait accepté la place vacante de fermier général des postes, au scandale de beaucoup de ses amis qui pensaient que la retraite convenait à sa situation. Munie de ses pièces justificatives, la marquise entra en négociation avec le père de Sacy, qui consentit à lui donner l'absolution et à lui administrer sacrement. Elle fut donc nommée dame d'honneur. Elle se jeta alors pour quelque temps dans la dévotion, mais dès ce moment, assure-t-on, elle résolut la perte des jésuites qui avaient osé, lorsqu'il s'était agi de ses Pâques, résister à ses volontés. L'expulsion des jésuites due à Madame de Pompadour et au duc de Choiseul, qui voulaient la destruction ou la réforme des ordres religieux, donna à la favorite une heure de popularité. Accepter la volonté des partis est un moyen habile qu'ont toujours adopté les ambitieux. On se grandit alors à peu de frais, et de tous les intéressés, on se fait des créatures. Un instant, on oublia la haine vouée à la favorite, on oublia la bassesse de sa naissance, son avidité, les traités honteux, et pour cette proscription d'une société dangereuse, on l'adula plus que si elle eût donné une province à la France. Dans le courant de l'année 1754, Madame de Pompadour avait éprouvé le plus grand chagrin de son existence. Alexandrine, sa fille bien-aimée, mourut subitement pour avoir été saignée mal à propos au couvent de l'Assomption, où on l'élevait avec le plus grand soin. Elle avait alors 11 ans. Ici commence la seconde période de la vie de la marquise de Pompadour. La maîtresse charmante de Louis XV fait place à la femme d'État. L'ambitieuse incapable que flétrit l'histoire succède à l'artiste spirituel qui avait trouvé grâce. La favorite règne désormais. Elle est duchesse de fait, sinon de titre. Elle est dame d'honneur de la reine. Alors son orgueil devient immense, insatiable, comme son ambition. Dans son salon, elle affecte le ton et les manières d'une reine. Elle trône comme jamais, même après son mariage, ne l'avait osé faire Madame de Maintenon. Elle reçoit tout le monde, assise dans une chaise longue, ne se levant jamais, même pour les princes du sang, obligeant tout le monde à se tenir debout. Et pour qu'on ne lui manque pas de respect, c'est-à-dire pour que nul n'ait l'idée de s'asseoir en sa présence, elle fait enlever les sièges. Si bien qu'un jour, le marquis de Souvray, sorte d'original qui avait son franc-parler, vient, pour se reposer, s'asseoir sur un des bras de son fauteuil. Cette familiarité lui semble monstrueuse, et elle se plaint au roi de l'outrage qu'elle a reçu. Louis XV demande une explication au marquis. « Ma foi, sire, répond M. de Souvray, j'étais diablement là, et ne sachant où m'asseoir, je me suis aidé comme j'ai pu. » Cette réponse cavalière fit heureusement rire le roi. Oh, si le coupable avait essayé de se disculper, il était perdu. Sous prétexte qu'elle est souffrante, la marquise ne rend de visites à personne, même aux duchesses titrées. Et à Noël de la cour fait illusion à ses prérogatives que la faiblesse royale donne à la favorite. De Jésus la naissance fit grand bruit à la cour. Louis, en diligence, fut trouvé Pompadour. « Allons voir cet enfant, lui dit-il, ma mignonne. »« Non, dit la marquise au roi, qu'on la porte chez moi. » Je le vais chez personne. Elle fait donner à ses domestiques des titres et des décorations. Sa femme de chambre est une personne de qualité, et lorsqu'elle sort, il lui faut un chevalier de Saint-Louis pour porter la queue de sa robe. Et l'on se demande lequel des deux l'emporte de la vanité de la maîtresse ou de la bassesse du gentilhomme. Les courtisans prenaient à tâche de justifier cette insolence par leur plate obséquiosité, et les plus grands seigneurs de France ne rougissaient pas de faire antichambre chez elles, attendant une audience pour solliciter quelque grâce. Elle est roi désormais, président du Conseil des ministres. C'est dans son cabinet que se fait le travail politique. Les secrétaires d'État viennent lui soumettre toutes les décisions. Elle assiste au lit de justice. Elle répond aux remontrances du Parlement. Richelieu, le grand ministre, sous sa robe rouge de cardinal, avait caché Louis XIII. Et Louis XV disparaît sous les jupes amples de sa favorite. Un éventail, voilà le sceptre de la France. La toute-puissance de la marquise de Pompadour ne tarda pas à se faire sentir d'une manière désastreuse. Le traité d'Aix-la-Chapelle ne nous donnait qu'une paix boiteuse. C'était une trêve armée, chacun le sentait, mais nul alors ne prévoyait la guerre de 7 ans. Et cette guerre impolitique, insensée, calamiteuse, elle fut l'œuvre de la favorite. De tout temps, l'Autriche avait été considérée comme l'ennemi naturel de la France. Ainsi pensait Henri IV et Richelieu, de politique au moins aussi fort que la maîtresse de Louis XV. On changea de conduite et l'on tendit la main à Marie-Thérèse. Cette guerre devait servir admirablement et les rancunes et les amitiés de Madame de Pompadour, qui détestait Frédéric le roi de Prusse et affectionnait très particulièrement l'impératrice d'Autriche. La haine de la marquise contre le roi de Prusse datait de longtemps. Frédéric, sorte de tyran philosophe et bel esprit, accueillait avec distinction tous les mécontents que faisait la cour de France. Il professait une tolérance universelle. Il permettait de tout dire, de tout imprimer, lorsqu'il ne faisait pas mettre les libres penseurs en prison et brûler les livres par la main du bourreau. Son palais était une petite académie, un hôtel Rambouillet de l'encyclopédie. Il écrivait à Jean-Jacques Rousseau et donnait à Voltaire la clé de Chambellan. À ses soupers, on raisonnait surtout, et sur bien d'autres choses encore, mais surtout, on critait et critiquait, on se moquait Versailles, on le devine, n'était point épargné, et la favorite de Louis XV était le point de mire de tous les traits d'esprit. Souvent, à ses oreilles étaient venus les propos méchants, les piquants épigrammes, on lui avait montré des vers, apporté des chansons. Enfin, Frédéric l'avait surnommé, et elle le savait, Cotillon II. L'amitié de Madame de Pompadour pour Marie-Thérèse fut l'œuvre du comte de Kaunitz, ambassadeur d'Autriche. Politique habile, sous des dehors frivoles, reconnaissant l'utilité de l'alliance de la France, il pensa que l'amour-propre de la favorite valait la peine d'être exploité. Il décida donc, sa souveraine, à écrire une lettre autographe à la maîtresse du roi de France. Marie-Thérèse, dans ses lettres, traitait la marquise d'égal à égal. Elle l'appelait cousine, se disait son amie. L'orgueil faillit étouffer Madame de Pompadour. Kaunitz ne s'était pas trompé, et de ce jour, elle voit une inaltérable affection à son amie et cousine, Marie-Thérèse. Les négociations avec l'Autriche commencèrent, et bientôt un traité d'alliance fut signé. C'était le signal de la guerre de 7 ans. La France va désormais, au profit de son ancien ennemi, prodiguer son or et son sang. Frédéric sera plusieurs fois à deux doigts de sa perte. Dans son désespoir, il songera même au suicide. Mais général habile, roi vraiment grand et héroïque dans plusieurs campagnes, il tirera une admirable partie de toutes ses ressources, fera face de tous côtés à la fois, échappera à quatre armées qui le cernent, et sortira de cette lutte inégale, si l'on vainqueur, du moins sans grande perte. Marie-Thérèse, grâce à une habile administration, aidée d'ailleurs par la France, accroîtra son influence en Europe. Tout le poids de la guerre retombera sur la France. Durant ces 7 années d'hostilité, il périra 900 000 combattants. Nous sacrifierons des millions, nous perdrons toute notre prépondérance, et le pacte de famille que M. de Choiseul considérait comme un chef-d'œuvre de diplomatie nous fera perdre la Louisiane. Pendant cette guerre désastreuse, de petits généraux conduisent à la mort de grandes armées, des rivalités mesquines éclatent entre les chefs et font échouer tous les plans. Les flatteurs seuls de la favorite obtiennent des commandements. Enfin, des généraux français font construire, ô honte, des palais à Paris avec l'or de l'ennemi. Insouciant et ennuyé, Louis XV apprendra toutes les turpitudes. Il verra le mal et ne songera pas à y remédier. Il a emprunté la devise de sa favorite, « Après nous, le déluge !» Voilà cependant où nous conduisaient les petites passions de la marquise de Pompadour. Sa politique ne rencontra aucun obstacle de la part des ministres. Elle n'admettait au pouvoir, il est vrai, que des créatures à elle, et plus tard l'abbé de Bernis, son ami dévoué, un des auteurs du traité avec l'Autriche, fut exilé pour avoir osé résister. Depuis longtemps déjà, M. de Maurepas, le ministre aimé de Louis XV, le seul qui put faire travailler le roi, entre un bon mot et une chanson, ce qui ne l'empêchait pas d'être un habile homme d'État, avait été renvoyé. Il avait fallu trouver un prétexte. La marquise l'accusa donc d'être l'auteur d'un abominable quatrain qu'elle avait, disait-elle, trouvé un jour sous sa serviette en se mettant à table. Au-dedans, cependant, les affaires n'en allaient pas mieux. Les finances étaient obérées. Le clergé et le parlement mesuraient tour à tour la faiblesse du gouvernement et tenait peu compte de ses ordres. Une division intestine partageait le sacerdoce et la magistrature. Il y avait débat entre toutes les juridictions. Bientôt, à la suite d'une mesure prise par le roi, 180 membres du parlement donnèrent leur démission. « La douleur des Parisiens, dit l'auteur de l'histoire philosophique du règne de Louis XV, se manifesta bientôt en expression de colère. Le roi était hautement qualifié du nom de tyran. On se racontait la turpitude de ses mœurs. La favorite était couverte d'imprécations. Enfin, les pamphlets et les placards les plus injurieux étaient chaque jour affichés jusque sur les murs du palais. L'exaltation était à son comble. Le crime ne se vit pas attendre. Le 5 janvier 1757, vers 5 heures du soir, le roi, qui dans la journée était venu à Versailles voir une de ses filles malades, se disposait à monter en carrosse pour retourner à Trianon. Il mettait le pied sur le degré de velours lorsqu'un homme qui s'était glissé dans l'ombre au milieu des personnes qui l'entouraient s'élança sur lui et le frappa. « Oh, viens !» s'écria le roi, « de me donner un furieux coup de coude !» Puis passant la main sous son habit, il la retira pleine de sang. « Je suis blessé » dit-il. Alors, regardant autour de lui et apercevant un homme qui gardait son chapeau sur la tête, « C'est cet homme qui m'a frappé. Qu'on le prenne, mais qu'on ne le tue pas !» Des gardes du corps se précipitèrent aussitôt sur l'assassin et l'arrêtèrent. Il aurait pu s'enfuir 10 fois avant ce temps, se perdre dans la foule. Mais, soit horreur de son crime, soit mépris de la vie, il était resté immobile. Conduit dans la salle des gardes du corps, il fut fouillé. On trouva sur lui une 30aine de louis d'or et un couteau à 2 lames. Il s'était servi pour frapper le roi de la plus petite, qui avait la forme d'un canif. Interrogé, il déclara se nommer François Damien. Puis tout à coup, et comme pris de remords, « Qu'on prenne garde, s'écria-t-il, à Monseigneur le Dauphin, qu'il ne sorte pas aujourd'hui !» Cette exclamation fit croire qu'il avait des complices, et pour obtenir une révélation complète, les gardes du corps commencèrent à lui donner la torture. Mais vainement le tenailla avec des pincettes rouges, les soldats se lassèrent plus vite que lui. Il ne poussa pas un cri, il n'avoua rien. Bientôt, le grand prévôt de l'hôtel vint s'emparer de l'assassin et le fit conduire à la geôle pour commencer une instruction régulière. Le roi, cependant, perdait beaucoup de sang. Il remonta l'escalier sans être soutenu. Il devait coucher à Trianon, en sorte qu'il n'y avait rien de préparé à Versailles. On coucha le roi sur des matelas pendant qu'on disposait son lit, et tous ceux qui étaient autour de lui commencèrent à le déshabiller. Un médecin était accouru. La blessure se réduisait à une forte égratignure. Le roi portait ce jour-là, à cause du froid, plusieurs vêtements. Ils avaient amorti le coup. La blessure pansée et le calme commençaient à renaître, lorsque tout à coup un imprudent énonça la crainte que le couteau ne fût empoisonné. Cette crainte frappa l'esprit du roi. Tout son sang-froid l'abandonna. Il voulut un prêtre à l'instant. Et comme tous les aumôniers étaient absents, un simple chapelain remplit en tremblant la redoutable mission de le réconcilier avec le ciel. La famille royale était accourue, la reine se précipita tout en larmes dans la chambre. Madame de Pompadour se présenta, mais la porte lui fut interdite par ordre du roi, qui lui fit donner le conseil de se retirer de la cour. Ses terreurs de Metz le reprenaient, puis il délégua tous les pouvoirs au dauphin, qui prit le gouvernement des affaires. Le ministre Machaut, conformément aux intentions du roi, était allé trouver Madame de Pompadour. Dans son intérêt, il lui conseillait de fuir. Jamais la position de la favorite n'avait été aussi menacée. Elle perdait la tête. Elle allait se décider à partir lorsque Madame de Mirepoix, présente à l'entretien, lui représenta que son départ la perdait à tout jamais. « Il faut rester !» lui dit-elle. Et comme la marquise hésitait encore, « Oui !» ajouta Madame de Mirepoix, « mieux vaut être chassée que de partir un jour trop tôt. » Eh bien, bien en prit à Madame de Pompadour de suivre ce conseil. 8 jours après, le roi était remis et redevenait son esclave. Le procès de Damien ne fit jaillir aucune lumière sur cet odieux attentat. Il resta cependant à peu près prouvé qu'il n'avait pas de complice. Dans tous ses interrogatoires, il soutint qu'il n'avait voulu que blesser le roi. Les tortures les plus atroces ne lui arrachèrent aucune révélation. Quelques jours après l'attentat, le ministère fut presque entièrement renouvelé. Le roi, revenu de ses terreurs de la mort, rougissait-il de ses faiblesses? Voulait-il en éloigner les témoins? Quelle que soit la raison, les ministres furent brusquement renvoyés, remplacés par des hommes complètement à la discrétion de la marquise, plus puissante que jamais. Depuis longtemps déjà, la marquise de Pompadour n'était plus pour le roi qu'une amie. Les sens n'étaient plus pour rien dans leur mutuel attachement. Tel était l'état de sa santé que, de l'avis même du médecin, elle avait dû rompre entièrement toutes relations avec son amant. Sa déclaration au père de Sacy à l'occasion de ses Pâques était donc vraie. Dans sa jeunesse d'ailleurs, au temps même où véritablement elle était la maîtresse du roi, Madame de Pompadour avait toujours eu un tempérament très opposé à celui de Louis XV, et on a peine à se figurer les expédients auxquels elle avait recours pour garder seule l'amour du maître et ménager son influence, lorsque l'amitié, née de l'habitude, succédait à l'amour dans le cœur du roi. Voici une anecdote empruntée aux mémoires de Madame du Hausset, qui peint admirablement le caractère de la marquise à cette époque, et cette anecdote peut être révoquée en doute venant d'une femme qui lui fut toujours dévouée. C'est Madame du Hausset qui parle. J'avais remarqué que depuis plusieurs jours, Madame de Pompadour se faisait servir du chocolat à triple vanille et ambré à son déjeuner, qu'elle mangeait des truffes et des potages au céleri. La trouvant fort échauffée, je lui fis un jour des représentations sur son régime, qu'elle eut l'air de ne pas écouter. Alors j'ai cru devoir en parler à son amie, la duchesse de Brancas. « Moi, je m'en suis aperçu, me dit-elle, et je vais lui en parler devant vous. » Effectivement, après sa toilette, Madame de Brancas lui fit part de ses craintes sur sa santé. « Je viens de m'en entretenir avec elle, dit-elle en me montrant la duchesse. Elle est de mon avis. » Madame la marquise témoigna un peu d'humeur et se mit à fondre en larmes. J'allai aussitôt fermer la porte et je revins les écouter. « Ma chère amie, dit Madame de Pompadour à Madame de Brancas, je suis troublée de la crainte de perdre le cœur du roi en cessant de lui être agréable. Les hommes mettent, comme vous pouvez le savoir, beaucoup de prix à certaines choses, et j'ai le malheur d'être d'un tempérament excessivement froid. J'ai imaginé de prendre un régime un peu échauffant pour réparer ce défaut, et depuis 2 jours, cet élixir me fait du bien. » Elle pleura encore et ajouta, « Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé il y a 8 jours. Le roi, sous prétexte qu'il faisait chaud, s'est mis sur mon canapé et a passé la moitié de la nuit. Bon, il se dégoûtera de moi et en prendra une autre. » « Vous ne l'éviterez pas, répondit la duchesse, en suivant votre régime, et ce régime vous tuera. » Ces dames s'embrassèrent, Madame de Pompadour recommanda le secret à Madame de Brancas, et le régime fut abandonné. Et peu de temps après, elle me dit, « Le maître est plus content de moi, et c'est depuis que j'en ai parlé à Quesnay, sans lui tout dire. Il m'a dit que, pour avoir ce que je désire, il fallait avoir soin de se bien porter et tâcher de bien digérer et faire de l'exercice pour y parvenir. » Oh, je crois que le docteur a raison, et je me sens tout autre. J'adore le roi, je voudrais lui être agréable, mais hélas, quelquefois, il me trouve plus froide qu'une macreuse. Mais l'influence de Madame de Pompadour tenait à des sentiments plus nobles que ceux qu'elle désirait alors. Elle devait son empire à son adresse, à son dévouement constant, à toutes les fantaisies du maître, aux soins qu'elle prenait de courir au-devant de ses moindres désirs, au charme de son esprit, à sa grâce, à toutes ses qualités enfin qu'elle possédait dans la première période de ses relations avec le roi. Plus tard, elle fut pour Louis XV comme un vieux ministre. Il n'osait la renvoyer par cette même raison qu'il avait fait garder le cardinal Fleury. Il tremblait de voir retomber sur lui seul tout le poids des affaires. Il voyait bien que la royauté allait droit à sa perte. Il pressentait la ruine, mais il disait, « Bast, tout cela durera bien autant que moi. » Et il laissait faire le mal, pouvant l'empêcher, ce qui est le plus grand crime qu'un souverain puisse commettre. Madame de Pompadour, cependant, tremblait toujours de voir surgir une rivale. Depuis longtemps, elle le savait, les valets de chambre du roi, corrupteurs, subalternes, méprisables agents de la débauche, fournissaient aux caprices du maître de jeunes et jolies filles qu'ils allaient recrutant de tous côtés. Les intrigues des ennemis de la marquise pouvaient pousser dans la couche royale quelques femmes de grande maison, belles, fières, spirituelles, hardies, comme l'avait été la duchesse de Châteauroux. La favorite frémissait à cette idée. Les infidélités passagères de son amant lui importaient peu, elle ne l'aimait plus. Mais elle tenait au pouvoir, plus qu'à la vie. Elle résolut donc d'être elle-même l'intendante des honteux plaisirs du royal débauché. C'était la première fois que cette idée venait à une favorite d'entourer son amant d'un sérail, mais cette idée assura la puissance de Madame de Pompadour. Elle choisit pour le roi des maîtresses jeunes, jolies, gracieuses, mais d'une classe inférieure ou sans fortune et sans alliance, aussi peu spirituelles que possible, de façon à n'avoir rien à redouter du pouvoir de leur charme. Les pourvoyeurs habituels du roi devinrent ses créatures, et nul ne put être admis près du roi sans son approbation. Déjà, quelque temps auparavant, Louis XV était venu lui demander avec un certain embarras, il est vrai, ses bontés pour une jeune fille prête à devenir mère et sur laquelle il désirait que l'on veillât avec la plus grande sollicitude. Il était fort embarrassé de cette jeune fille, mais ne voulant pas trahir son incognito et n'osant s'ouvrir à personne de peur d'une indiscrétion, il avait pensé à son amie. La marquise se chargea elle-même de prendre soin de la mère et de l'enfant. Elle pourvut généreusement à tous leurs besoins et leur assura un revenu honnête. « Que vous êtes bonne !» lui disait le roi. « Oh, que de gratitude pour vous de vous charger d'une pareille mission !» La marquise devait avoir bien d'autres complaisances. Afin de favoriser les goûts de Louis XV, elle lui donna, dès 1753, sa charmante retraite de l'Ermitage, située dans le parc de Versailles, et admirablement disposée pour les débauches secrètes. Le parc aux cerfs était inventé. C'est là que désormais furent logées les jeunes filles qui attendaient les embrassements du maître. On donna à cette maison une organisation. Un chevalier de Saint-Louis sollicita l'honneur d'en être l'intendant général. Une ancienne chanoinesse fut chargée de la surveillance intérieure. Elle avait sous ses ordres deux sous-maîtresses. Enfin, un certain nombre de femmes de compagnie étaient chargées de l'éducation des jeunes élèves. Le valet de chambre Lebel, M. de Lujac, neveu de la favorite, et sa femme, la marquise elle-même, tels étaient les pourvoyeurs ordinaires de cet infâme sérail. La police s'en mêlait aussi, et lorsqu'elque enfant de 9 à 11 ans attirait par sa beauté les regards des agents, elle était enlevée ou achetée à ses parents et conduite à Versailles. Le nombre des malheureuses qui passèrent successivement au parc aux cerfs est immense. À leur sortie, elles étaient mariées à des hommes vils ou crédules, à qui elles apportaient une bonne dot. On leur trouvait toujours un mari. La turpitude du chef de l'État provoquait ainsi la bassesse des sentiments. L'argent, au besoin, n'était pas épargné. On le prodiguait, et on prodiguait aussi les places dans l'armée ou dans le clergé. Le roi était généreux, le trésor public fournissait à tout. Il est difficile d'évaluer les sommes englouties par le parc aux cerfs, mais on peut assurer, sans exagération, que pendant 34 ans qui subsista cet établissement, elles s'élevèrent au moins 150 millions. Le peuple savait toutes ces infamies et son mépris et sa haine augmentaient. Le traité de paix signé à Paris le 10 février 1763 vint mettre le comble à l'exaspération générale. C'était cependant la fin de cette guerre absurde entreprise en faveur de l'Autriche sous l'inspiration de Madame de Pompadour. Mais ce traité nous faisait perdre toute notre prépondérance européenne. La France humiliée devenait une puissance de troisième ordre. Enfin, malgré la détresse des finances, il fallut payer à Marie-Thérèse, la bonne amie de la marquise, une somme de 38 millions qui l'aida à réparer ses pertes. On trouva que les amitiés de la favorite coûtaient un peu trop cher. La nation fut frappée au cœur. La majesté royale était avilie et tous ceux qui entouraient le trône semblaient prendre à tâche de flétrir la couronne. Le bruit ne courut-il pas que pour augmenter ses ressources, pour payer plus largement ses honteux plaisirs, le roi s'était mis à la tête du pacte de famine et créait pour s'enrichir des disettes factices. La marquise, on le pense, n'était pas épargnée. Depuis longtemps déjà, elle n'osait plus se montrer en public. Elle était accueillie par des huées. On ne l'appelait plus que le fléau de la France. On disait hautement qu'elle avait ruiné l'État, et cette allégation ne manquait pas de fondement. Sans compter les sommes fabuleuses englouties dans la guerre de 7 ans, la marquise avait dilapidé les finances pour enrichir ses parents, ses amis, pour se faire des créatures et pour satisfaire les passions du roi. Sa fortune à elle-même était scandaleuse. Elle possédait le marquisat de Pompadour, le château de Crécy, en Brie, les châteaux de Bel-Air et de Bellevue, des réservoirs, le marquisat de Ménard, sans compter plusieurs autres magnifiques propriétés, entre autres l'hôtel d'Évreux, qu'elle avait fait reconstruire à l'extrémité des Champs-Élysées. Enfin, pour se faire une idée de son luxe, on n'a qu'à jeter les yeux sur son livre de dépenses, qui ne dit pas tout, et l'on voit qu'elle paya de 1748 à 1754, pour la construction et les décorations intérieures seulement de sa maison de Bellevue, la somme de près de 3 millions, 2 983 047 francs. Le linge pour draps et tables de sa maison de Crécy avait coûté 60 452 livres. Qu'on estime ce qu'elle avait dû dépenser pour Bellevue. Elle possédait pour près de 2 millions de diamants, et elle estimait elle-même sa vaisselle d'or et d'argent à 687 600 francs. Ses seuls colifichets sont évalués à 394 000 livres et ses porcelaines non comprises, celles de Sèvres, à 261 945 livres et sa garde-robe à 350 000 livres. Les voyages du roi, comédies, fêtes données dans ses différentes maisons lui coûtèrent plus de 4 millions. Enfin, pendant ses 19 années de règne, elle dépensa pour sa bouche la somme de 3 540 800 livres. Les tableaux, les objets d'art, les mobiliers splendides, les collections de camées et de pierres fines ne sont pas compris dans cet état fort abrégé des richesses de la favorite. La vente seule de son mobilier dura plus d'un an. Madame de Pompadour avait entrepris une tâche impossible, celle d'amuser Louis XV. Elle succomba à cette tâche et lui usa sa santé, sa vie. Cette femme, partie de si bas pour s'élever si haut, n'avait pas été heureuse. Elle régnait, tous ses désirs semblaient remplis, mais une inquiétude profonde la consumait en secret. Son pouvoir tenait à si peu de choses. On se fait difficilement une idée de ce qu'il en coûta de peine, de soucis, de douleur à cette favorite pour conserver au milieu de tous ses ennemis sa haute situation. Sa santé s'altéra sous le poids des angoisses de son âme. La Providence allait être justifiée. Hélas, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Jeune femme, elle avait été menacée d'épuisement, et sa maladie dégénéra bientôt en une langueur mortelle. Longtemps, elle réussit à cacher ses souffrances au roi, mais un jour a choisi. Au milieu d'une partie de plaisir, elle fut terrassée par le mal. On crut d'abord que ce ne serait qu'une indisposition passagère, mais les symptômes devinrent vite menaçants, et on la transporta de Choisy à Versailles. Les médecins ne désespéraient pas, mais elle seule ne s'abusa point sur son état. « Je suis perdue, » dit-elle, « qu'on aille me chercher un confesseur. » Louis XV vit sans émotion les progrès de la maladie. Il fut convenable, voilà tout. Chaque jour, il envoyait plusieurs fois prendre de ses nouvelles. Chaque matin, de ses favoris lui apportait un bulletin de la nuit. Calme et résignée, elle vit approcher la mort. Au commencement de sa dernière journée, le curé de la Madeleine, sa paroisse, était venu la voir et l'exhorter au courage. À 11 heures, il prit congé d'elle. « Attendez encore un moment, monsieur le curé, » murmura-t-elle, « nous en irons ensemble. » Peu après, elle expira, le 15 avril 1764. Elle avait alors 43 ans et en avait passé près de 20 avec le roi. Louis XV, jusqu'au dernier moment, lui laissa l'exercice de son pouvoir suprême et elle eut cette dernière faveur de rendre le dernier soupir dans la demeure des rois, quoique l'étiquette en bannisse la mort, cette messagère importune. Mais, avec la vie de la favorite, s'éteignirent toute sollicitude, toute commisération. Son cadavre, roulé dans un drap, fut placé sur une civière, et 2 hommes de peine la portèrent hors du palais. Louis XV, de la fenêtre de ses appartements, vit passer dans sa cour l'ignoble cortège. Le temps était sombre, il tombait une pluie fine et glacée. « Pauvre marquise, » dit le roi, « elle aura bien mauvais temps pour son dernier voyage. » Ce fut tout. Louis XV n'eut pas une larme, un mot de regret pour cette femme qui pendant 20 ans avait été son amie. Madame de Pompadour fut inhumée au couvent des Capucines de Paris, dans une chapelle qu'elle avait achetée 1 an auparavant. Le marquis de Marigny fut l'héritier de ses immenses richesses. Son corps n'était pas refroidi encore, que d'ignobles épitaphes circulaient déjà à Paris et à Versailles. « Enfin, » dirent les Parisiens transportés de joie, « Louis XV va donc régner !»